Bonjour, tendre Père, bonjour, Esprit de Dieu, Esprit de Christ. Merci pour ce beau matin, tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin pour chaque personne que tu as amenée dans ton Saint-Temple. Seigneur, je sais que tu es en train de travailler pour la vie de chacun de nous. Éternel des armées, avec humilité, avec simplicité, qui suis-je pour me mettre au devant de toi ce matin, ni au devant de tes enfants? Moi qui suis le pire des pécheurs, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon de toutes mes iniquités conscientes et inconscientes. Saint-Esprit, je t'invite d'annoncer ta parole à tes enfants. Moi, je ne suis qu'une bouche que tu veux utiliser pour nourrir tes enfants ce matin. Et par l'autorité que tu nous as léguée, nous arrêtons tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu. Nous arrêtons tout ce qui viendra voler, distraire tes enfants ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, parle à ton peuple. Moi, je voudrais disparaître. Utilise-moi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais commencer ce message en remerciant tous les membres de notre Église, de tout ce que vous faites, ceux qui donnent des dons en nourriture, parce que j'ai un ministère pour aider les gens dans les quartiers en donnant à manger chaque lundi. Mais je voudrais quand même remercier l'Église de tout ce travail que vous faites. Chaque don, vous sauvez une vie. Et un grand merci. Alors, nous voulons commencer notre message. Le week-end passé, nous étions avec le pasteur Michel à la retraite sur les forteresses. Et moi, j'étais parmi les gens qui étaient à la forteresse et je suivais les forteresses 2, les renversants forteresse 2, qui a été vraiment une bénédiction pour moi. Et puis, notre animateur principal, c'est le pasteur Michel. J'ai beaucoup aimé. J'ai vu la face de Michel remplie de l'onction. Beaucoup d'onction, j'ai été béni. Alors, c'était très, 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 très intéressant parce que j'étais très malade cette journée. Je me sentais très affaibli. Mais le Seigneur savait pourquoi je devrais aller là-bas. Je me débattais avec quelque chose qu'on appelle la colère. La colère qui date des années, moins de rien, je m'explose, moins de rien, je m'explose. Et ça a daté de longtemps. Mais à travers la prière, l'adoration, et puis le cure d'âme que le pasteur Michel a commencé à faire à chacun de nous qui étaient dans les groupes, on était 5, et chaque personne commençait à s'ouvrir son cœur. Et puis, ça a commencé avec la parole de Dieu. La parole de Dieu commençait à creuser nos cœurs, à nous ouvrir. Et puis nous, les hommes, nous avons des difficultés à s'ouvrir. Et notre guérison est un peu difficile aussi. Mais ces jours-là, avec la puissance du Saint-Esprit, ma colère datait de longtemps. Parce que mon père me frappait beaucoup. J'aimais les soccer et lui ne voulait pas que j'aille voir les soccer. Alors, il avait peur parce qu'il y avait une foule de 80 000 personnes. Moi, j'avais 12 ans, 14 ans. Chaque fois que je revenais, il me battait. Il me frappait avec la ceinture. Alors, ça créait une douleur. Et ça a eu des conséquences dans ma vie d'adulte. J'étais incapable de voir l'autorité. Et puis, quand je vois l'autorité, je commence à trembler, même à mon âge adulte. Et j'étais comme isolé aussi. Et puis, j'avais des difficultés. Quand je vois l'examen, j'ai tout étudié, mais je vois comme les blancs de mémoire, j'oublie tout à cause de la peur. Alors, j'ai essayé un peu, de faire sortir ça, parce que souvent, on a comme des domaines réservés, on ne veut pas parler, mais c'est ça ce qui nous brise, ça crée un blocage, ça nous empêche d'évoluer, de progresser dans la vie ou bien d'affronter la vie. Alors, le pasteur m'a demandé de prier avec lui, et on a prié ensemble, j'ai senti, j'ai pardonné mon père, et puis j'ai senti une paix intérieure, parce que tout ce que nous voyons à l'extérieur, c'est des masques. Ce n'est pas les vraies personnes que nous sommes. Les vraies personnes que nous sommes, c'est à l'intérieur. Alors le masque était tombé, et puis j'ai eu la joie, et puis j'ai senti une guérison, parce que j'étais vraiment broyé, brimé, là. J'avais comme un surmenage. Puis en rentrant dans ma chambre, je commençais à adorer. Et ça a béni les gens qui étaient tout autour. J'ai même un ami qui était dans le groupe, il est venu uniquement pour m'écouter parce qu'on s'encourageait, on était devenus comme, ce n'est plus une église, ça devient une famille. Et j'ai senti la force extraordinaire. Et puis on a parlé avec Michel, le message d'aujourd'hui, c'est comme creuser ce qui m'a aidé de sourire devant vous. Amen. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas encore participé au renversement forteresse, c'est vraiment dans les petits groupes que nous sommes formés, édifiés, développés et affermis. Alors, comme intitulé, c'est très difficile de préparer un message une semaine dans la prière et d'avoir un thème. Les clés de bénédiction, mes bien-aimés. Le premier texte que nous voulons lire, c'est en 2 Corinthiens 5, 10. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Nos vies sont constituées de raisonnements et de pensées. Nous avons des pensées négatives, contraires à la parole de Dieu. Et ces pensées, le diable ne prend que nos pensées pour réaliser ces mauvais rêves. Toute pensée négative que vous avez, c'est le diable. Parce que dans les renversements forteresse, on a dit, nous avons plusieurs canaux de communication. Et nos pensées, si ça reçoit quelque chose de négatif, ça va créer comme un blocage. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous renversons les raisonnements et toute terre qui s'élève contre la connaissance de Dieu.
Excusez, c'est chapitre 10.
Ok, chapitre 10. On a fait l'inverse. Merci beaucoup. Ok, chapitre 10, oui. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Oui, la parole de Dieu est très importante pour nos vies parce que la méditation de la parole de Dieu enlève ces mauvaises pensées, les pensées que l'ennemi vient nous souffler et la parole de Dieu, c'est ça ce qui nettoie nos pensées dans la journée. Et l'Esprit de Dieu prend les pensées que nous méditons dans la parole de Dieu pour réaliser nos rêves. Mais le mauvais esprit aussi prend les pensées négatives que moi, je vais mourir avec cette maladie et tu vas mourir avec cette maladie. Parce que ça, c'est les mauvaises pensées du diable. Moi, je ne réussirai jamais dans la vie. Ça, c'est une pensée négative dans laquelle il ne faut pas méditer. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a donné ces beaux versets que la parole de Dieu est là pour renverser toutes les connaissances qui ne sont pas de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai médité sur un homme de Dieu très puissant. Il a au moins des milliers et des milliers de gens qu'il héberge chez lui et qu'il donne à manger des enfants orphelins. Lui, le matin, midi, le soir, il entrait à méditer la parole, il interrogeait la parole, il priait. Et même s'il n'y a pas de nourriture, vous allez voir qu'il y a dans la journée des gens qui l'amènent la nourriture parce qu'ils priaient avec des paroles qui sont dans la Bible. Et ils prenaient le Seigneur au mot. Ils disaient, Seigneur, toi tu as dit ça. Pour faire une bonne prière, il faut avoir la parole de Dieu avec vous. Et la parole de Dieu, c'est notre pain de vie. Ça efface toutes les mauvaises pensées que le diable vient nous souffler dans la journée de chaque jour. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons partager quelques principes. Nous allons partager quelques... Aujourd'hui, nous allons partager quelques principes qui ouvrent nos cœurs et permettent au fleuve de Dieu de couler à nous librement. Parce que nous sommes d'abord esprit. Parce que quand nous avons médité dans les forteresses, on dit, l'homme est constitué d'une partie dans laquelle qu'on appelle le corps. L'homme est constitué d'une partie que le monde que nous voyons, environnement, tout ce que nous voyons à côté de nous, et il y a aussi le diable. Alors, la chair que nous avons, c'est notre premier ennemi. Alléluia. La chair que nous voyons ici, c'est notre premier ennemi. Et le monde que nous voyons aussi, c'est notre ennemi. Parce que lorsque Jésus priait, il faisait les 40 jours, le diable lui a proposé d'abord, il dit, « Si vous vous inclinez au devant de moi, je vais te donner tout ce que vous voyez m'appartient. » Il y a beaucoup de choses que nous voyons dans le monde qui nous bloquent. Parce que nous avons envié ce qui est dans le monde. Et il y a aussi le Satan lui-même qui vient aussi nous souffler des choses, ça crée un blocage. Et tous ces blocages, ça fait que l'eau qu'on appelle le fleuve, la puissance de Dieu dans nos vies, la joie dans laquelle Dieu nous a créés, nous n'arrivons pas à voir cette vie de joie dans laquelle le Seigneur nous a créés. Alors, il y a 4 points que je vais essayer un peu de développer ce matin. La miséricorde triomphe du jugement. Faire ça pour la miséricorde, ça c'est le premier point que je veux partager avec vous. La miséricorde triomphe du jugement. Deuxième point, choisir de pardonner. Troisième point, libérer les fruits du jugement. Et quatrième point, il est temps de pardonner. Amen. Le premier point, mes bien-aimés, que je vais développer ce matin, c'est la miséricorde triomphe du jugement. Dans Luc, chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai reçu un témoignage à la retraite. Il y a quelqu'un, il vient à l'église, il est impliqué, il fait tout, il est dévoué. Mais un jour, on a entendu que cette personne s'est suicidée. Alléluia. Pourquoi un homme que vous voyez, qu'il vient à l'église, il s'implique à l'église, se donne à l'église, et après il se suicide? Parce qu'il y a à l'intérieur de lui des choses que l'église ne voit pas, qui créent un blocage en lui. Alors il faut qu'il y ait des moments de partage pour permettre à cet homme de s'ouvrir. Si cet homme ne s'ouvre pas, ou bien cette femme ne s'ouvre pas, ça conduit même au suicide. Mais ils sont nombreux dans les églises. Nos églises sont remplies de gens qui portent des masques, en commençant par moi. Ce n'est pas le vrai visage de la personne. Et le masque que nous portons, lorsque nous ne faisons pas sortir ça, ça peut nous conduire même au suicide. Le deuxième verset que nous allons partager, c'est Jérémie 31:3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Nous devons savoir, mes bien-aimés, les problèmes que tu vis, que tu ne veux pas faire sortir, que tu te caches, tu as mis ça comme le pasteur Michel avait dit, dans un bocal. Tu fermes, on dit non, ce n'est pas grave. Mon père m'avait piétiné, ma femme m'avait piétiné, mes frères m'avaient violé dans ma jeunesse. Je garde ça pour moi-même, c'est un secret pour moi. Mais c'est comme vous fermez un feu. Le feu, lorsque vous le mettez, ça risque de s'exploser. Et lorsque ça s'explose, c'est ta vie qui est détruite. C'est pourquoi le Seigneur vous dit ce matin, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. D'abord, il nous dit ce matin qu'il n'est rien impossible à Dieu. Si nous venons dans cette église, le Seigneur me dit de vous dire ce matin que ton problème, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que moi, j'avais la colère parce que je croyais que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour moi. Mais lorsque tu crois à cette parole, parce que la parole égale vie. Si vous acceptez cette parole ce matin, rien n'est possible. La situation que tu traverses, pour ne pas aller dans le suicide, il faut t'ouvrir avec les hommes de Dieu. Il faut t'ouvrir avec les anciens. Libère ton cœur. Parce que c'est comme si vous bouchez la présence de l'onction de Dieu de manifester dans ta vie. Parce qu'il nous a promis dans Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour dérober ta joie, dérober tes richesses, dérober tes bénédictions. Et vous allez vivre votre destinée parce que ce n'est pas la vie que Dieu t'a donnée. La vraie vie que Dieu t'a donnée est bloquée quelque part par quelque chose que tu ne veux pas t'ouvrir. Mais Dieu me dit de te dire ce matin qu'il t'aime d'un amour infini. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Dieu nous aime. Rien n'est impossible à Dieu. Il nous aime vraiment. Le suivant. Mais qu'est-ce qui fait que on ne voit pas des bénédictions de Dieu dans nos vies? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que le pasteur dise, venez à l'étude biblique, venez dans notre cellule maison de Cloverdale. Mais les gens ont des difficultés de s'impliquer dans nos cellules. Les gens ont des difficultés à donner des dîmes, des offrandes comme il faut. Les gens ont des difficultés d'adorer le Seigneur avec joie. Moi, je fais chaque vendredi de minuit au matin, je chante pour le Seigneur. Mais si vous demandez aux gens de venir à l'église, ils ne viennent pas à l'église, qu'est-ce qu'ils font? C'est des blessures. Des blessures que nous ne voulons pas faire sortir. Et des blessures créées en nous comme un fardeau. Et les blessures nous volent l'énergie. Ça, ce n'est pas le message que j'allais prêcher. Le message que j'allais prêcher sur l'efficacité de la parole de Dieu et de la prière. Mais quand le Seigneur m'a révélé, vous allez prêcher sur l'efficacité de la méditation à la parole de Dieu et la prière si quelqu'un a encore des blessures dans son cœur. Il a des douleurs dans son cœur. Il ne croit même plus à la guérison, au miracle de Dieu. Ça ne donne rien. Il faut que toi, tu t'ouvres. On peut être 30 ans à l'église, mais on a été abusé par un frère, par une soeur, par ton père, comme moi, mon père m'a abusé, m'a frappant. Tu es là à l'église. Il y a un rejet. surtout pour les immigrants, où vous vous sentez rejeté, oublié, tu n'as plus même de valeur. Mais ça, c'est un blocage. Un blocage, mon frère. Car la parole dit dans Luc 3, 16, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son van à la main, il nettoyera son œuvre et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, on va faire comme les mimis. Quelque chose ne peut pas t'arrêter d'aller chercher des dons que les gens donnent. Quelque chose ne t'arrêtera pas à vous impliquer dans le groupe maman. Quelque chose ne t'arrêtera jamais, jamais, jamais pour vous investir pour les autres. Parce que lorsque l'amour de Dieu coule en toi, ça va contaminer les autres. Mais pourquoi? Pourquoi on ne le fait pas? Il y a les gens, nous sommes déjà à l'église, mais on a perdu même notre amour de servir. On ne vient que pour formalité. Mais on ne sent plus la joie. Mais le Seigneur sait. Il sait. À travers l'apôtre Paul, il dit, il nettoyera son air. Ce qu'on avait fait à la retraite, j'ai senti que le Seigneur avait nettoyé. Je sentais mon ami qui avait des douleurs envers son père des années, durant 36 ans. Il dit, Jean, je ne pardonne pas mon père. Il y a des gens dans la salle comme mon ami, il dit, je ne pardonnerai pas. Mais le Seigneur dit, pour que tu fonctionnes bien, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Il faut que cette douleur, ça sort. Parce que si ça ne sort pas, vous allez tourner en rond. C'est comme ce filet-là, il est attaché au micro. Je ne peux pas aller loin. Vous ne pouvez pas aller loin. Vous allez toujours condamner les autres. Mais le problème, c'est au-dedans de toi. Moi, je sais que le Seigneur a mené son balai. Il veut nettoyer de vie. Il veut changer de vie. Ce n'est pas la vie dans laquelle le Seigneur t'a appelé. Et vous voyez, quand le Seigneur nettoie, c'est comme quelqu'un qui amasse des blés. Je disais à mes enfants hier, quand je préparais ça, il y a Glody qui est venu, il dit, papa, qu'est-ce que tu prépares? Je dis, je prépare un message. Mais je t'ai dit, tu prends l'arachide. L'arachide, il y a sa coquille. Il faut enlever d'abord la coquille. Et quand vous plantez, ça va pousser. Ça va vous pousser. Et vous allez faire une bonne récolte. Nous sommes comme une arachide qui a sa coquille. Mais il faut enlever cette coquille. Et quand vous enlevez cette coquille, vous plantez, ça va pousser, ça va donner beaucoup des arachides et ça va nourrir beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de vous. Mais il faut que toi-même, tu sois délivré, libéré. Dis non, pardon. Que cette personne que tu as mis comme dans la prison, tu ne veux pas pardonner ton père, tu ne veux pas pardonner ton époux, ton épouse, tu ne veux pas pardonner tes amis. Dans la famille, tu ne veux pas pardonner, tu gardes ça longtemps. Comment vous allez bénir les autres? Ça serait impossible de lire la Bible comme il faut. Parce que toi-même, tu ne crois pas à cette parole qui demande de pardonner. Tu ne seras pas utile pour être semé par l'Esprit de Dieu et produire des fruits dans ce quartier. Les blessures. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tu es comme moi, j'avais le plaisir d'être frappé. Dans Matthieu 32, 37, verset 39, dit, Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Mais voici le second qui lui est semblable. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, mes bien-aimés. Personne de nous n'a jamais vu Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Qui a été allé au ciel? Bon, on le voit à travers sa parole. Mais sa parole nous dit, si vous aimez vraiment Dieu, il faut pardonner. Alléluia. Nous devons pardonner. Dieu est amour. C'est pourquoi il nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas en fonction de remplir des activités à l'église, ce n'est pas en fonction de ton apparence extérieure, mais l'amour de Dieu. Comme on a vu à la retraite, il y avait une femme qui faisait beaucoup de choses, croyant qu'en faisant beaucoup de choses, il verra Dieu. L'amour de Dieu consiste simplement à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et son fils, qu'est-ce qu'il a fait à la croix de Golgotha? Lui qui n'avait jamais fait de péché comme il tillait, a tué beaucoup de gens, il n'a rien fait. Mais il a accepté de mourir sur la croix, percé, son sang coulé, il a porté la couronne d'épines pour nous pardonner de toute iniquité. Et nous devons lui remettre cet amour en pardonnant les autres. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous nous créons toujours des blocages, nous-mêmes. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu consiste à aimer Dieu et à pardonner mes bien-aimés. J'ai dit, tu aimeras ton prochain. Voici les secondes qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. L'autre point que le Seigneur voulait que je partage avec vous, ces pensées et paroles critiques. Nous allons lire ça dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Car les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous avons un ennemi. Si vous regardez ceux qui ont suivi les forteresses, un ennemi très, très violent. Depuis que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre ennemi, ce n'est pas le gouvernement du Québec. Notre ennemi, ce n'est pas ta femme, ni ton père qui t'avait abusé ou qui continue à t'abuser. Notre ennemi est invisible. J'ai demandé au pasteur, Abi, comment discerner notre ennemi? Il faut savoir entendre. Qui me parle? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est le diable? Tu peux regarder ton mari quand il fait des choses croches, ton épouse, mais regarde qui est derrière. Alléluia. Qui est derrière tout ça? Vous allez mener une vie de restauration. Vous allez discerner qui gère, qui conduit la vie de mon épouse en ce moment, à l'instant même. Et vous allez réagir avec les armes, pas les armes de la colère. Ça, c'est les armes charnelles. Pas les armes de l'isolement, de s'enfermer. Parce qu'un jour, tu vas continuer à blesser aussi les autres parce que c'était une souffrance intérieure. Mais les armes que nous, moi et toi, que le Seigneur nous a données, ces armes pour renverser les forteresses, sont spirituelles. Parmi ces armes, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu en fonction de cette situation que je traverse en l'instant même? Pour la personne qui m'avait abusé, pour la personne qui me frappait, qui me tapait des coups de tête, Qu'est-ce que je vais faire? On doit rentrer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante, mes bien-aimés, pour renverser les forteresses. Mais il faut avoir cette parole. Il y a un homme de Dieu qui dit, il lit la Bible en entier 4 fois par an. 4 fois. Et ça mène la puissance, mes bien-aimés, à chasser ce qui nous bloque. Et troisième chose, nous devons choisir les paroles de vie. Nous devons choisir les paroles de vie, mes bien-aimés. Vous savez, Moïse, il avait compris. Il passait du temps dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Si tu as des difficultés à méditer la parole de Dieu, méditer, c'est interroger la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit pour ces sujets, pour ce problème que je traverse, le problème que tu traverses qui va t'amener au suicide? Il y a une parole de Dieu et il y a une promesse de Dieu là-dedans. Et lorsque vous priez avec cette parole, le Seigneur, vous prenez le Seigneur au mot et vous verrez les miracles s'accomplir. Parce que vous priez avec précision, avec concision. Et la parole de Dieu, c'est une grande puissance pour faire des prières précises et concises. Et troisième chose, c'est choisir les paroles de vie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur, là, c'est le Satan. Le diable, Lucifer, qui était un ange de Dieu, qui chantait dans la grande chorale, mais il voulait s'égaler à Dieu, se comparer à Dieu. Et nous, nous faisons pareil, nous voulons nous égaler à Dieu, à nous comparer à Dieu. Parce que Dieu nous dit de pardonner, dit, moi je ne pardonne pas. C'est-à-dire, c'est toi qui es devenu le juge. Là où tu es assis, tu es déjà juge. Si tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu es devenu juge. Alors, qu'est-ce qui arrive? Un juge, tu connais le bien et le mal, tu dis, cette personne est condamnée. Nous n'avons pas ce mandat en tant que chrétien. Rien n'est écrit dans la Bible que les chrétiens sont des juges. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les voleurs volent ta joie. Ils volent tes richesses. Ils volent ta prospérité. Ils volent ton avenir. C'est ça la mission du diable. Mais la parole que nous prêchons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, ce qui est la vie. Lorsque nous appliquons cette parole que nous méditons ce matin, nous avons de l'eau, l'onction, la puissance. Lorsque vous parlez à quelqu'un, la personne est touchée de ses péchés, la personne est transformée et il devient utile dans l'église ici. Comme le pasteur avait fait dans la forteresse, lorsqu'il parlait, il allait toucher le Saint-Esprit qui est en lui, allait toucher nos cœurs, allait toucher chaque personne. Il y a même mon frère qui est ici, il dit, je ne parlerai pas, je vais pardonner mon père, seulement quand je le vois face à face. Mais il a pardonné son frère, parce que la parole de Dieu était dans la vie de Michel, et la parole de Dieu a touché mon frère, et mon frère commençait à s'ouvrir, mon frère commençait à pleurer, et il était libéré, on nous sommes embrassés parce que la parole de Dieu est là pour nous donner la vie. Amen. La parole de Dieu enlève les mauvaises pensées. Il y a des gens qui ont bâti leur vie dans les mauvaises pensées. Chaque seconde que vous êtes négatif, ce sont des mauvaises pensées. Et nos maisons sont construites par les mauvaises pensées. Parce que nous ne voulons pas pardonner et nous méditons le mal. 80% des chrétiens méditent les négatives au lieu de méditer la parole de Dieu. Pour méditer la parole de Dieu, il faut la lire jour et nuit. Car il a dit dans Josué 1, 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Qu'est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait. Nous devons méditer la parole de Dieu. Autre chose, la loi du jugement. Il y a des gens qui vivent sur la loi du jugement. La miséricorde triomphe le jugement. La miséricorde, c'est l'amour infini. Donner quelqu'un un don immérité. Mais les gens n'appliquent pas, nous n'appliquons pas la miséricorde. Dieu est miséricordieux, mais souvent nous appliquons la loi du jugement. Matthieu 7, 1 à 2, ça dit, ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Alléluia. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Dieu même qui nous parle ce matin. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Si vous ne voulez pas pardonner, peu importe l'habit que la personne a fait, vous jugez. Vous jugez. Et vous entrez dans la loi du jugement. La loi du jugement, c'est quoi? Oh, Dieu va regarder tous tes péchés que tu as fait. Tu as fait 1000 péchés et ces péchés restent là. Et tu seras condamné. On va te juger avec toi, ce que tu condamnes les autres. Et tu ne sauras pas payer ça à Dieu. Et ça crée un blocage total. Et vous allez voir les églises qui se vendent, qui se vident. Oh non, on ne voit pas des miracles dans notre église. Mais le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est moi et toi. Nous ne voulons pas pardonner. Nous jugeons les autres. On juge comme une sœur. Il jugeait son père dès la jeunesse. Parce que son père l'avait abusé. Mais pour être libéré, faire le travail de Dieu dans lequel il t'a appelé, il faut pardonner son père. Mais la loi du jugement, mes bien-aimés, vous amène à être jugé. Et le diable prend la clé de ta vie. C'est lui qui décide que tu entres dans ta maison. Tu n'as plus le pouvoir. Amen. Le suivant. Et regarde, et la parole de Dieu dit, et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère tandis que tu ne vois pas la poutre dans ton œil? Souvent, nous regardons les erreurs des autres. Lui, il est ceci, lui, il est par là. Mais la parole de Dieu nous dit, regarde-tu la paille? La paille, c'est petit. Mais la poutre dans ton œil t'empêche même de voir. Tu es semi-aveugle. Souvent, nous voyons les erreurs des autres. Mais le Seigneur nous demande, regardez, avant d'aller condamner quelqu'un, critiquer quelqu'un, regarde de bas la poutre. Examine-toi toi-même. Si tu ne pardonnes pas, tu dis, ah lui, il est mauvais, il est méchant. Mais toi, peut-être, tu fais la fraude. Qui est encore grave. Peut-être il y a adultère. Tu sors avec la femme d'autrui. Tu vis avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié. C'est pire encore. Mais tu vois seulement quelqu'un qui t'avait adressé de mauvaises paroles, tu ne veux pas lui parler. Et l'apôtre Paul dit, comment dit-on à ton frère, permets que j'ôte cette paille de ton œil et voici une poutre est dans ton, les tiens. L'apôtre Paul dit, hypocrite, ôte premièrement ton œil, la poutre, alors tu penseras à ôter la paille de ton frère. Amen. Enlève d'abord. Examine-toi toi-même. Vous allez mener une vie heureuse de vous examiner vous-même au lieu d'examiner les autres parce que vous n'avez pas ce pouvoir. Le Seigneur te demande, comme on nous prêchait dans les forteresses, prends le problème, ta souffrance, ta douleur, amène ça à Dieu, celui qui est le juge. Et tu dis, oui, j'étais fâché contre toi, tu es méchant, tu as détruit ma vie, mais je te remets à Dieu et je te pardonne. Et Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais en colère contre mon père durant 30 ans. Pardonne-moi. Tu peux même faire cette prière en ce lieu parce que le Seigneur, je sais comment est cette souffrance. Mais comment est la victoire qui s'ensuit? Mais il y a une loi aussi qui dit, selon laquelle on moissonne ce qu'on a semé. dans Luc 6, 37, 38, pourquoi vois-t-il la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Le Seigneur nous dit, nous sommes des hypocrites. Moi, je ne veux pas être une hypocrite. Toi non plus. Amen. On va aller vite, vite pour terminer. Alors, le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Tu vas dans choisir de pardonner. Matthieu, le 6, 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne, dans le verset 12, arrêtez là-bas, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On s'arrête au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je sais que presque nous tous, on a été offensés. Soit par un pasteur, je ne dis pas ici, mais ailleurs. On a été offensés par son mari. On a été offensés par des frères de la famille. On a grandi ensemble, ils t'ont frappé. On a été offensé par un boss dictateur, comme nous qui venons de pays du tiers-monde, on a été offensé par des dictateurs. Mais le Seigneur dit, dans le verset 12, pardonne. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais bien-aimés, je voudrais prêcher sur la prière, mais si... Tu gardes encore des rancunes à des gens. Tu as enchaîné des gens. Parce que ça dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Le contraire de ça, on n'a pas le pardon. Regarde tout ce que tu fais. Regarde la liste des choses que tu as fait qui ne sont pas bonnes. Chaque fois, le soir, tu pries, Seigneur, pardonne-moi. Mais toi, tu n'as pas pardonné. Quand je méditais ça, j'ai failli pleurer. J'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il dit, pour Bomolo, c'est pire. Parce que la personne qui ne pardonne pas, il prend la Sainte Cène, la communion, la coupe. Et que nous prenons des pains ensemble. Et cette coupe-là, c'est le corps du Christ. Et chaque personne que tu n'as pas pardonné, c'est un morceau de Jésus. Et lorsque vous ne pardonnez pas, la personne que vous faites mal, c'est Jésus. Amen. Et puis, il dit encore que faites attention. Vous prenez ce pain injustement. Parce que lorsque vous prenez ce pain et vous ne pardonnez pas, la Bible dit, le pasteur peut me compléter. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui ont des maladies qui ne sont pas guéries. Il y a la malédiction. Alléluia. Moi, je ne veux pas être maudit par Dieu. Je refuse de garder rancune à mon frère. Je vais le libérer aujourd'hui. Je refuse de garder rancune à mon mari. Je vais le libérer aujourd'hui pour que moi, je sois libéré. Pour que les malédictions me quittent. Que les blocages me quittent. Amen. Pardonne. Et le piège dans lequel beaucoup nous sommes tombés, c'est l'auto-justification. Dans Matthieu 5, 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Va te réconcilier avec ton frère. Laisse ton offrande. L'offrande là, ce n'est pas seulement l'argent. Hein? Amen. C'est quand tu viens ici, en chantant, en adorant, c'est l'offrande que vous donnez à Dieu. Mais Dieu avait refusé aussi l'offrande de Caïn. Caïn et Abel, ils sont allés faire l'offrande à Dieu. L'autre est monté au ciel, mais l'autre ne montait pas au ciel. Parce que Caïn a haïssé son frère. Et Dieu ne voulait pas accepter son offrande. Lorsque nous venons le dimanche à l'église, nous venons offrir l'offrande d'adoration, de reconnaissance. Mais le Seigneur te tourne le dos. Parce qu'il dit, avant de venir m'adorer à l'église, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va chercher le pardon de Dieu. La personne que tu as liée, qui ne pardonne pas il y a 50 ans d'âge, va d'abord régler avec lui pour que tes prières soient agréables. Que toi, tes prières soient efficaces. Pour que tes prières soient puissantes. Amen. Est-ce que ça rentre? Et le point suivant, c'est libérer du fruit du jugement. Le jugement, c'est le manque de pardon. Condamner les autres. Critiquer tes amis à l'église. Oh, lui ne sait pas chanter. Lui ne s'habille pas bien. Ça, c'est le jugement. Mais le Seigneur nous appelle à être libérés de ça. Il dit dans Hébreux 12, 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de sa grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Dieu a une grâce. Il y a un pasteur qui priait, sa belle-fille allait mourir. Le médecin dit, c'est fini, pasteur, il va mourir. Le pasteur a dit, c'est toi qui dis qu'il va mourir. Il est rentré dans la chambre, il a commencé à intercéder, il a commencé à implorer la grâce de Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de grâce. Lorsque les êtres humains vont dire que c'est fini, mais Dieu déverse toujours la grâce. La grâce, ce n'est pas que tu mérites ça, mais c'est un cadeau gratuit pour les vrais chrétiens. Mais le Seigneur dit pour ne pas te priver de cette grâce, il refuse aucune amertume dans ton cœur. Alléluia. Si tu veux que la grâce de Dieu coule dans ta vie, lorsque tout le monde lui dit c'est fini, va mourir. Il n'aura plus d'enfants. J'ai connu une jeune fille dans les quartiers. Même certains serviteurs disaient c'est fini. 6 ans de mariage. Elle est stérile. Peut-être on l'a bloquée. Surtout les Africains aiment penser beaucoup à la sorcellerie. Oh non, elle est ensorcelée. Elle est envoûtée. Mais la fille priait Dieu, gênait, priait. Le pasteur a prié. Et à la fin, cet enfant était guéri. Alléluia. La grâce de Dieu. Moi, je dois refuser de perdre la grâce de Dieu à cause de quelqu'un qui m'a piétiné. Ou bien quelqu'un qui m'a exclu de la société, il ne veut pas reconnaître ce que Dieu a mis en moi. Je refuse de l'haïr. Nous devons refuser d'haïr. Même cette personne comme le pasteur Joss Meyer disait, mon père m'a abusé 20 ans. Mais je refuse de l'haïr. Je dois aimer mon père. Je dois pardonner mon père. Et puis il s'approcha, il regarde vraiment son cœur. Est-ce que je l'aime? Pardonner ne suffit pas. Mais regarde ton cœur si vous l'aimez. Et le Seigneur l'a libéré de ses douleurs. Et cette femme a commencé, une femme qui commence à prêcher dans le monde entier. Parce qu'elle est libérée de l'amertume. Lorsque nous avons l'amertume en ce lieu, même nous nous cachons dans les activités à l'église, ces activités ne seront pas bénéfiques que pour le peuple de Dieu. Parce que le Seigneur dit aucune amertume ne peut pas être dans nos cœurs. Le non-pardon amène à l'amertume, amène à la colère, amène même à tuer quelqu'un. Amen. Eh bien, on va finir. Il est temps de pardonner. Il est temps de pardonner. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous avons ce pouvoir. Ça, c'est un droit que nous avons en tant que chrétiens. Nous tous, nous avons ce droit. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Si tu condamnes quelqu'un, c'est comme si tu as ce pouvoir-là de bloquer son progrès spirituel, son épanouissement. Et le Seigneur agrée ça. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Lorsque vous pardonnez quelqu'un, le Seigneur aussi le pardonne. Amen. Regarde, souvent nous oublions notre mandat sur la terre. Notre mandat sur la terre, c'est de gagner des âmes, chaque chrétien. Je vais vous parler d'une petite histoire de 2 minutes. Étienne était un grand serviteur de Dieu. Paul, qui est en train de nous prêcher chaque jour dans la parole de Dieu, au nom de Jésus. Paul, qui est en train de nous prêcher, est-il la personne qui avait signé l'ordonnance qu'on tue Étienne? Et on jetait des pierres à Étienne, on les lapidait. Lapider, c'est ça, hein? Jeter des pierres, pasteur. On lapidait Étienne. Et lorsqu'on lapidait Étienne, Paul était là parmi les gens qui tuaient Étienne. Comme toi, il y a des gens qui t'ont lapidé, des gens qui t'ont démoli, les gens qui t'ont savonné, humilié, bâti, humilié, abusé. Nous devons faire comme Étienne. Étienne a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Mais bien aimé, Paul a compris, Étienne a compris que mon mandat, que Saul se convertisse, mon mandat que Saul se convertisse, ton mandat que la personne, ton mari là que tu haïs, ton épouse que tu haïs, ton frère, ton père qui t'a baptisé que tu haïs, ton mandat, ce n'est pas de l'amener à l'enfer. Ton mandat que ton père se convertisse. Mais à cause de la prière, du pardon d'Étienne, le pardon d'Étienne a amené Saul à se convertir. Alléluia. Dieu a touché le cœur de Saul qui est devenu Paul, l'apôtre Paul que nous lisons, grâce à la prière d'Étienne. Ta prière d'aujourd'hui, de ce matin, va amener le Paul de ta vie, le Saul de ta vie à changer. La colère ne changera pas la personne. Toi-même, tu es prisonnier de la colère. Toi-même, tu es prisonnière de l'amertume. Toi, tu es prisonnière. Vous savez, quelqu'un qui est prisonnier, est-ce qu'il peut faire quelque chose de bon dans la vie? Est-ce qu'il peut faire quelque chose de bien dans la vie? Non, il est bloqué totalement. mais fais comme l'apôtre, les serviteurs de Étienne, pardonne. Et vous allez libérer beaucoup de gens. Et beaucoup de gens seront transformés. Et le Seigneur va déverser de la puissance et du feu dans toi. Comme je vois qu'il utilise les gens qui sont dans les forteresses, les pasteurs, les aidants, parce qu'ils ont déjà eux-mêmes pardonné ceux qui les faisaient du mal. Et ils sont devenus des instruments efficaces pour changer quelqu'un qui avait des douleurs des années, et il est libéré. Amen. Dans Jacques 2, 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, mes bien-aimés, c'est un don. Cette personne qui t'a fait du mal, même la dette d'un million, redonne ça gratuitement. Ne cherchez pas que tu te vois avec la personne pour le pardonner. Parce que le Seigneur dit, lui, il est le Dieu de miséricorde. Il nous appelle à être miséricordieux, le peuple de Dieu. La miséricorde triomphe du jugement. Vous savez, pour terminer, je vais rentrer à nos ancêtres. Les premiers ancêtres, c'est Adam et Ève. Et lorsque le diable est venu les tromper, il y avait deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et eux, ils ont choisi, Adam et Ève, au lieu de choisir l'arbre de la vie, Satan les a trompés. Ils ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient s'égaler à Dieu. Ils voulaient devenir comme Dieu. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous voulons nous égaler à Dieu. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, moi, lui, il mérite ça. Il mérite la condamnation. Et nous prenons souvent, comme nous a montré la place du juge. Le juge, c'est Dieu. Toi, tu n'as qu'à mener ta souffrance, ta douleur à Dieu. Amen. Alors, on va lire les derniers versets pour conclure le message d'aujourd'hui. Dans Matthieu 6, 12, on s'élève. Et je vais demander à l'équipe de musique de venir, de jouer un petit morceau d'Alléluia. Mes bien-aimés, Dieu nous appelle aujourd'hui, dans Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés ce matin.